Ce matin, Dieu m'a posé une question que je vais te poser et puis on va réfléchir sur la solution, sur la réponse à cette question. Alléluia. Alléluia. La question ce matin que Dieu m'a posée pour toi et que je vais te demander de poser à ton voisin à côté, demande à ton voisin quel est ton problème. Alléluia. Et s'il ne peut pas te répondre, je pense que peut-être à la fin de ce que nous allons dire, il pourra trouver un début de réponse. Dites amen. Dis à ton frère, quel est ton problème? Alléluia. 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 Vous savez que nous avons eu pendant près de 2 ou 3 mois notre série d'études sur devenir la meilleure version de nous-mêmes et Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. Ce matin, je vais aller sur ce sujet-là, qu'on va voir peut-être sur 2 dimanches. Aujourd'hui, nous allons voir des généralités et dimanche prochain, je vais vous expliquer comment, si tu as identifié ton problème, comment régler ton problème. Parce que beaucoup de gens sont dans nos églises. Parce que vous savez, l'église n'est pas un lieu pour venir faire bonne figure. Béni Hinn a dit que lorsque Dieu t'a abandonné, à un moment donné, la seule chose que tu fais, c'est faire le show. C'est-à-dire, tu fais du... comment on appelle ça? Il a utilisé un mot là. Tu fais du divertissement. Nous, on n'a pas envie de faire du divertissement. On a envie de servir Dieu avec notre cœur. Et garder cette flamme-là allumée, quelles que soient les difficultés de la vie. Dites amen. Amen. Et je voulais encourager quelqu'un dans cette salle. Prenez votre engagement avec Dieu au sérieux. Dis ça à ton voisin, s'il te plaît. Parce que sert-il à un homme de faire tout ce que nous faisons et puis au soir de sa vie, se retrouver complètement disqualifié? Ce n'est pas utile. Donc je voulais demander à quelqu'un de prendre conscience ce matin et de reconnaître que si nous avons fait le choix de devenir enfant de Dieu et de devenir chrétien, c'est un choix. Assumons notre choix. Parce que vous savez, la nature a horreur des hommes ambigus. Quand je parle d'hommes ambigus, des gens qui sont ni à droite, ni à gauche, qui sont ni avec A, ni avec B. Ça, c'est des hommes à retrancher. Et Dieu ne travaille pas avec des hommes ambigus. Voilà pourquoi, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, le Seigneur prend le temps de nous laisser sur terre, afin, est-ce que tu t'es posé la question un jour, pourquoi, quand je suis sauvé, Dieu m'a laissé? Parce qu'il aurait pu t'envoyer au ciel. La première chose, c'est que tu n'es pas parfait, donc tu as besoin d'être perfectionné. Parce que sauvé, c'est ton esprit, ton âme et ton corps ont besoin également de suivre un processus pour que ton entièreté soit agréable à Dieu. Un deuxième élément important, c'est que Dieu t'a laissé sur la terre parce que Dieu s'attend à ce que tu fasses un choix clair. Parce que même quand tu dis, Seigneur, je te donne ma vie là, Dieu veut regarder jusqu'à où cet engagement-là est sincère. Et c'est dans tes choix au quotidien que Dieu verra si ton engagement est sincère. Parce qu'il a dit d'Abraham, la Bible dit, Dieu fit ces choses pour mettre Abraham à l'épreuve, pour voir jusqu'à où cet homme l'aimait. Ça veut dire quoi? Dieu peut te donner quelque chose et puis te prouver pour voir si tu mérites la chose. C'est le même qui a donné le fils à Abraham. Il aurait pu s'arrêter là, mais pourquoi il l'éprouve? Il l'éprouve parce qu'il a certes exaucé sa prière, mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. Alléluia. Dieu veut qu'on fasse des choix clairs. Et vous savez, en général, les hommes ne répondent pas ou ne font pas face aux problèmes de la vie de la même façon. En fonction de notre background, c'est-à-dire de notre milieu où nous sommes sortis, de la façon dont nous avons été formatés dans la vie, nos approches dans le règlement des conflits ou des difficultés qui viennent vers nous sont différentes. Certains commencent par régler leurs problèmes du haut, d'autres commencent par le milieu, d'autres commencent par le bas, d'autres commencent par autre chose. Mais chacun en fonction de la façon dont il a été formé ou éventuellement même des courants de pensée dominants qui conduisent sa vie, sa façon de résoudre les problèmes ou de réagir face aux difficultés de la vie. Voilà pourquoi, vous savez, il est nécessaire aujourd'hui, en tant qu'Église, de revenir à la parole de Dieu pour que nos expériences ou nos façons de faire face aux difficultés de la vie soient identiques et qu'enfin, on puisse avoir des chrétiens qui marchent dans une victoire totale. Parce que la victoire dans la vie d'un homme est déterminée par la réaction qu'il a face au problème qui vient vers lui. Mais la réaction qu'il a est fonction de ses courants de pensée, est fonction de ce qu'il a comme vue générale. Mais si l'Église revient à la Bible, alors on verra beaucoup de grandes choses dans l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je veux te conseiller ce matin de revenir à la parole de Dieu. Je disais ce matin au premier culte, il y a des gens, la parole de Dieu n'a plus effet sur eux. On prêche, c'est des paroles. L'effet de la parole a diminué dans leur vie. Le gars, il vit dans un concubinage, il est assis, il te regarde, tu parles, c'est pas pour lui. Il faut que la parole revienne au cœur de la vie de l'Église. Sinon, l'Église est perdue. Vous savez, je me suis rendu compte, frère, ne vous trompez pas, parce que même l'Occident aujourd'hui, tous ces pays-là, qu'est-ce que vous pouvez trouver aujourd'hui en France? Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de moralité. Et si l'Église de Jésus ne revient pas à l'essence de la parole, elle ne permet pas, ou les chrétiens ne donnent pas la possibilité à Dieu de toucher leur vie et de changer leur vie, alors cette église est perdue. L'église de la fin de ces temps doit revenir à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Doit revenir aux idéaux et aux fondamentaux de l'évangile pour que la victoire soit évidente. Je vous dis, la victoire, ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner une victoire. Personne ne vous donnera une victoire. C'est votre réaction vis-à-vis de votre quotidien et de tout ce qui vient vers vous chaque jour qui déterminera ce que vous allez devenir, victoire ou échec. Alléluia! La vie est faite de batailles. Et chaque bataille que tu gagnes te rapproche un peu plus de Dieu. Chaque bataille que tu rapportes. Vous voyez, on dit que quelqu'un a réussi. Lisons Apocalypse. Vous savez, dans Apocalypse, il est mentionné 7 fois un mot. À celui qui vaincra. On commence Apocalypse 2, verset 7. Quelqu'un d'autre me prend Apocalypse 2, verset 11.
Apocalypse, chapitre 2, verset 7.
On se lève tous. On va lire tous ces 7-là, levés.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Donc, numéro 1. À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 11 maintenant.
Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Oui, à chaque fois il revient à que celui qui a des oreilles.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 17.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Oui.
À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et donc, je lui donnerai un caillou blanc.
Il dit, pour les vainqueurs, il y a la manne cachée et il y a un caillou blanc.
Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir ça? Ça dit, j'ai envie d'avoir ça. Je dis, je ne vais pas rater ce caillou blanc. Ah, Dieu est mystérieux.
Verset 26.
26 d'Apocalypse 2.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations.
Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, parce qu'il ne sera pas évident dans ces temps de la fin de garder les œuvres de Dieu. Frère, tout va te challenger pour que tu dévies, pour que ton évangile ne soit plus l'évangile droit. Mais il dit, si tu persévères jusqu'à la fin, il te donnera autorité sur les nations. Alléluia.
Chapitre 3, verset
3, 5. Verset 5.
Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs.
Il dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs.
Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. En d'autres termes, qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire simplement qu'en réalité, tous ceux qui naissent ont déjà leur nom écrit dans le livre de vie. Mais en réalité, on efface pour d'autres. C'est-à-dire, tous ceux qui naissent, imams, sorciers, tout le monde a son nom déjà écrit parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, en fonction de nos choix, d'autres vont se faire gommer. Dis, ce ne sera pas moi.
Ce ne sera pas moi.
Alléluia.
Oui. Verset 12, chapitre 3.
3, verset 12.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus.
Dieu va t'établir comme pilier dans le temple. Oui.
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau.
Oui, Apocalypse 3, verset 21.
Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône.
Wow.
Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône.
Il couronne tout et il te dit, tu vas t'asseoir avec lui sur son trône. Mais ceux qui ont cette part, ce sont les vainqueurs. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Venez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Frère, quand on lit ces passages nous révèlent que Dieu s'attend à ce qu'on gagne nos batailles. Dieu s'attend à ce que tu aies la victoire sur tes difficultés, sur tes problèmes. Mais la victoire qu'un homme a sur les difficultés de la vie sont également liées à un certain nombre de choses. J'ai dit que les hommes n'abordent pas le règlement des problèmes de la même façon, en fonction de notre background, en fonction de la façon dont on a été formaté, en fonction du courant de pensée qui domine dans notre vie, on a une réaction ou on a une façon d'aborder les situations de difficultés dans notre vie. Et si nous avons malheureusement la mauvaise façon de voir ou la mauvaise façon de réagir, nous aurons malheureusement les défaites au quotidien dans notre vie. Et j'ai remarqué que pourquoi il n'y a pas assez de vainqueurs dans nos églises, cela est lié simplement à ce que la majorité des chrétiens se sont éloignés de la parole. Éloignés de la parole. Et ce matin, quelqu'un doit revenir à la parole. Dis amen. Donc la vie est une bataille. Et chaque bataille que tu gagnes te rapproche de Dieu et du succès auquel Dieu t'a assigné dans ta vie. Voilà pourquoi réussir ces difficultés n'est pas une option. On ne dit pas, c'est vrai, je n'ai pas réussi, ce n'est pas grave. Non. Tout objectif dans la vie d'un homme, si c'est Dieu qui a mis cet objectif-là, si cet objectif n'est pas atteint, c'est quelque chose que tu rates dans ton changement. Parce qu'au finish, ce que les gens retiennent, ce n'est pas le nombre de batailles que tu as eu à faire. Ce n'est pas quelle est la taille de la difficulté auquel tu as fait face. Mais ce que les gens retiennent au soir de ta vie, c'est comment tu es sorti. Comment tu es sorti. C'est ce que les gens retiennent. Quand vous prenez un gars comme Nelson Mandela, Mandela a eu des batailles. Mais quand les gens parlent de Mandela, qui parle de ses batailles? On dit simplement qu'après 27 ans, il est sorti. C'est la sortie là qui nous intéresse, nous tous. Tout ce qui s'est passé avant, toutes les difficultés, les moments douloureux de sa vie, les gens ont mis ça en parenthèse et on a déclaré que cet homme a souffert, mais a eu la victoire. Les hommes retiennent la fin. Frère, comment vas-tu sortir? Comment vas-tu remporter la bataille? Comment vas-tu gagner la couronne? C'est ça le plus important. C'est pourquoi Dieu m'a dit de te poser la question ce matin. Quel est ton problème? Demande encore à ton voisin, quel est ton problème? Parce que si tu ne sais pas quel est le problème, tu ne sauras pas comment faire face au problème et avoir la victoire. Maintenant, quand on parle de problème, on parle de quoi? Définissons un peu ce qu'on appelle un problème. Un problème, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens ont une vue différente de ce qu'ils appellent problème. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Un problème est un obstacle, une anormalité, une situation difficile, une différence entre l'état des choses et celui souhaité. C'est-à-dire, nos attentes ne sont pas réalisées. On appelle ça problème. Je m'attends à être à ce niveau et me voilà à ce niveau. Il y a des problèmes dans ma vie. J'ai des obstacles. J'ai des problèmes dans ma vie. Les choses ne marchent pas comme je veux. C'est un problème pour moi. Donc voilà comment en général les hommes définissent un problème. Un problème est quelque chose qui t'empêche d'atteindre le but que Dieu a assigné à ta vie. Ça, c'est un problème. Alléluia. Qui a une autre définition d'un problème? Qu'est-ce que c'est qu'un problème pour toi? Quand on dit j'ai un problème, quand tu dis j'ai un problème, tu penses à quoi? Oui? Tu penses à quoi quand tu dis j'ai un problème? Tu n'as pas de perception, une situation difficile. Tu es dans la situation et tu ne sais pas comment faire. Tu n'as pas de solution. Tu es dans un problème. Alléluia. Donc, en fonction de ces différentes définitions que je viens de donner là, tu peux identifier ton problème pour dire, moi dans ma vie, voilà le problème, ce que je considère comme un problème pour moi. Parce que ce matin, c'est quel est ton problème? Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, il y a un constat important que je veux faire ici. C'est que dans notre quotidien ou dans la pratique que nous avons des hommes, nous les pasteurs en général, on a remarqué une chose. C'est que une personne peut passer par une situation difficile, mais vraiment très difficile, et garder le sourire. Et un jour, il s'en sort. Et une autre personne peut passer par la même situation, souvent moins difficile que celle que l'autre a eue, et puis il est complètement broke, il est complètement anéanti. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe par une situation difficile, il s'en sort, l'autre passe par moins difficile que ça, et il ne s'en sort pas? Prenons l'exemple d'un couple. Il y a des couples, par exemple, quand vous allez à la justice, vous parlez avec les juges, ils vont te dire qu'ils ont réussi à réconcilier des couples, mais qui étaient dans des situations graves. Quand je parle d'incidents graves, mais c'est vraiment des incidents graves, où ils ont accepté, les deux, d'essayer d'ajuster et ils ont fini par régler leurs problèmes de couple. Mais ils te disent en même temps que il y a d'autres couples qui ont des problèmes apparemment. C'est des incompréhensions. Je dirais terre à terre. Mais qui n'arrivent pas malgré ça à sortir et ils finissent au divorce. Mais qu'est-ce qui fait que ce couple qui avait des problèmes plus graves, ça touchait aux fondamentaux, ils ont réussi à s'en sortir, et ceux qui étaient sur des disputes, des problèmes de point de vue, n'ont pas réussi et ils sont allés au divorce. C'est important. Est-ce que cela veut dire que Dieu est injuste? Hein? Je vous pose une question, répondez-moi. Non, Dieu n'est pas injuste. Lis-moi Romains 2, verset 11. La Bible dit quoi? Il dit, Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas injuste. Si l'autre couple est passé par plus difficile et est sorti, et l'autre est passé par moins difficile et n'a même pas réussi à s'en sortir, ce n'est pas le fait de Dieu. Oui, vas-y, Romains 2, verset 11.
Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme.
Dieu ne fait pas de favoritisme. Pourquoi lui, ça marche pour lui et pour moi, ça ne marche pas? Ce matin, il faut bien m'écouter. Quel est ton problème? Dieu ne fait exception de personne. Alors que vous allez remarquer une chose, c'est que dans la conscience générale, quand un homme passe par une difficulté, quand un homme est dans une situation de difficulté, d'adversité et ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, ou a subi un revers, les hommes en général jugent, quand ils analysent la situation, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, cet homme a été victime de la société ou a été victime de la vie, n'est-ce pas? Donc, c'est là où l'erreur se situe. Parce qu'en général, lorsque quelqu'un passe par une situation de difficulté, c'est le problème qu'on met en cause. Dis à ton voisin, ton problème n'est pas le problème. Premier élément de réponse. Vous voyez, je ne sais pas, est-ce que les gens comprennent ce que je suis en train de dire, hein? J'espère. Amen. Dis à ton voisin, ton problème n'est pas le problème. Donc le problème est où? Parce qu'en général, les hommes, quand ils ont un problème ou quand il y a une difficulté, ils se concentrent sur le problème. Mais c'est ça que j'ai dit. La première observation ici, c'est que je t'ai donné deux cas. Des gens qui passent par des situations graves, ils trouvent la solution, ils s'en sortent. D'autres passent par moins difficile, ils se noient. Donc, la conclusion de ça là, c'est qu'en réalité, le problème n'est pas le problème. Parce que si le problème était le problème, celui qui devait se noyer, c'est celui qui a eu la situation plus compliquée. Mais pourquoi celui qui est passé par une situation de mort, une situation même de non-retour, a pu trouver le sourire et a pu sortir la tête de l'eau, et celui qui avait un petit souci de personnalité avec son voisin n'a pas pu s'en sortir? Quand on regarde les deux cas, ça veut dire simplement que le problème n'est pas le problème. Mais nous les hommes, dans les analyses qu'on fait, lorsqu'on est face à une difficulté, c'est la difficulté qui est le problème. Jésus a été très clair lorsqu'il a donné cette parabole. Il dit, il y a deux maisons bâties. L'un était bâti sur quoi? Le sable, et l'autre sur le roc. Il dit, la tempête est venue. Donc la tempête, c'est le problème. La tempête est venue pour les deux maisons. Donc, il n'y a pas eu de différence de maison. Venue pour la première maison, venue pour la deuxième maison. Mais il dit à la fin, la maison qui était bâtie sur le roc est restée debout. Donc, ce qu'il est important de comprendre ici, ce n'est pas la tempête qui est en cause. C'est le fondement des maisons qui sont en cause. Alors que, quand les hommes en général ont des problèmes, dans leur analyse, la seule chose qui ne touche pas, c'est eux. Ils font toutes sortes d'analyses, sauf toucher à eux-mêmes. La vie n'est pas bien, les gens sont méchants, les gens m'ont fait des revers, Les gens m'ont critiqué, les gens m'ont taclé, les gens ont tout fait pour que ça échoue. Les gens n'ont pas été bien avec moi. Et il va finir son analyse et il s'arrête là. Alors que quand un problème survient, la réponse est que le problème n'est pas le problème. Tu peux dire ça avec conviction, s'il te plaît. Tu sais, si tu comprends ce que je te dis ce matin, tu vas commencer à avoir la bonne attitude face aux difficultés qui viennent à toi. Et tu seras sur le chemin de comprendre comment t'en sortir et avoir la victoire totale. Parce que l'affaire dans laquelle nous sommes là, cette affaire-là, Dieu ne traite pas avec les losers. Il tient compte des vainqueurs. Et tu n'as pas de choix que de t'en sortir. Mais t'en sortir va nécessiter que tu comprennes comment on traite un problème et on a la victoire. Sinon, frère, ça ne va pas venir comme ça par révélation. Hein. Non. Il y a longtemps que tu es sur tes affaires là. Pourquoi tu ne t'en sors pas? Il y a longtemps que tu tentes, tu ne t'en sors pas. Frère, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, il y a quelque chose qu'il a compris que tu n'as pas compris. Il ne faut pas mettre ça sur le fait de oui, ses parents, son médecin, son papa est dans le gouvernement. Toi, ton papa, il était où qu'on faisait le gouvernement? Non, il bon, s'il s'en sort là, c'est parce que c'est le cousin du ministre. Toi, dans tous tes cousins, il n'y a pas ministre. C'est la faute à qui? Hmm? Parce que tu vois, c'est très facile de justifier, de chercher à atténuer le succès des gens, de chercher à dire, oui, bon, oh, mon frère, moi, c'est vrai que chez moi, ça n'a pas trop marché, mais bon, écoute. Ah, le petit, il a reçu son examen. Ah bon? Oui, il a réussi, mais tu sais que l'examinateur est son cousin. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'on l'a aidé un peu? Non, frère. Alléluia. Alléluia. C'est important de comprendre parce que trop de gens ont une mauvaise perception des choses quand ils sont face à une difficulté. Dis encore, ton problème n'est pas ton problème. Dieu n'est pas injuste. La Bible dit, il ne fait pas de favoritisme. Dieu nous traite de la même façon. Donc si tu peux voir quelqu'un qui s'en sort, frère, ça veut dire tu as la possibilité de t'en sortir. Tu vois quelqu'un qui réussit. C'est pourquoi moi j'aime regarder les gens qui réussissent. J'aime marcher avec les gens qui sont à un certain niveau. J'ai horreur des gens qui ne s'en sortent pas. J'ai horreur des losers. J'ai horreur des gens qui véhiculent la poisse. Ce n'est pas une affaire d'humilité pour dire non, il faut t'entourer de tout le monde. Frère, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Il n'a pas dit que tout le monde soit ton camarade. Il n'a jamais dit ça dans la Bible. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tout le monde ne doit pas être ton ami. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Si tu vois quelqu'un qui réussit dans un domaine, alors ça veut dire simplement que tu es sauvé. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Donc si cet homme peut réussir, tu peux aussi t'en sortir. Je veux que tu comprennes ça. Si quelqu'un auprès de toi peut s'en sortir, il a une tête, il a un ventre, il ne dort pas sur quatre lits en même temps. Il dort sur un seul lit. Il mange portion de riz normale. Il n'est pas extraterrestre. S'il s'en sort dans la vie, tu peux t'en sortir. Donc, quand ça ne va pas pour toi, il faut comprendre que le problème n'est pas le problème. Parce que certaines personnes sont passées par là. Ils ont eu la victoire. Pourquoi toi, tu t'écroules là? C'est la question. Pourquoi toi, tu t'écroules là? Quelqu'un me dit, ah, mais je ne trouve pas de mari. Mais tu sais combien de sœurs qui ont grandi jusqu'à 40 ans et qui n'ont pas eu de mari et à 42 ans, elles ont eu mari. Toi, tu as passé la limite, mais tu ne trouves pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Combien de sœurs qui sont passées par la solitude, mais qui ont fini par trouver leur chemin? Toi, tu es arrivé dans cette même solitude-là, tu veux te suicider. Combien de personnes qui ont fait face à des faillites d'entreprise et qui se sont relevées? Toi, ton affaire est cassée un peu, tu veux abandonner la main du Seigneur. La première chose, tu allais jeûner, tu dis, C'est l'église. Il ne doit plus avoir d'onction. Je m'en vais ailleurs. Je dis, les hommes en général, quand ils ont un problème, ils analysent tout. Ils mettent tout sur tout, sauf eux. C'est une erreur. Dis avec moi, c'est une erreur. Ce que Dieu veut, quand tu es face à un problème, Dieu veut que tu comprennes que ton problème n'est pas le problème. Donc si ton problème n'est pas le problème, où est le problème? Le problème, c'est toi. Dis avec moi, mon problème, c'est moi. Tu as trouvé la réponse? Tu ne me réponds pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont un cœur endurci. Il n'est pas question que ce soit lui. Lui, jeune, il prie. Il fait tout ce qu'il a à faire. Il paye sa dîme. Apparemment, il fait tout. Qui t'a dit tu fais tout? Si tu faisais tout, tu ne serais pas là où tu es. Tu ne serais pas en train de subir les revers que tu subis. Tu sais, il faut être objectif. Nous servons un Dieu qui est plus grand que nous. Nous servons un Dieu qui ne ment pas. La parole de Dieu est scientifique. Elle marche. Si elle marche pour quelqu'un, tu sais, moi, quand je vois des gars comme T.D. Jakes, des gens comme ça, je suis convaincu d'une chose. Ce que je suis là, c'est moi. Non, il n'y a pas magie dedans. Hein. C'est moi. Dis mon problème, c'est moi. Dis encore avec conviction. Jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. Dis mon problème, c'est moi. Mon problème, c'est moi. Mon problème, c'est moi. Mon problème, c'est moi. Que Dieu m'aide. Alléluia. Vous savez, un jour, ils ont interrogé un homme. Et cet homme a raconté son témoignage. Et il dit, voilà ma vie. Et il a commencé par, à 14 ans, j'ai perdu ma soeur. À 20 ans, j'ai perdu mon père, ma mère. Après l'année qui a suivi, j'ai perdu un de mes frères dans un braquage. Ensuite, j'ai perdu. J'ai dit, quand il a raconté sa vie, là, tout était succession de calamités, de difficultés, de morts, de morts. Lui-même, il a fini dans la drogue et dans la boisson. Mais ce qui était intéressant dans son histoire, c'est qu'à la fin, les gens ont vu que pendant qu'il racontait tout ça, il souriait. Donc, le monsieur qui l'écoutait dit, mais attendez, ce gars-là, est-ce qu'il est normal? Il y a autant de difficultés, mais tu viens de loin, mon ami, et puis tu souris comme ça. Et avant que le monsieur qui l'écoute ne réplique, il a terminé en disant, et voilà comment Dieu m'a sorti. Et il a commencé à expliquer à quel moment Dieu a fait le déclic dans son esprit. Et Dieu l'a aidé pour qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est. Et il va expliquer maintenant qu'est-ce qu'il est et ce qui fait qu'il sourit depuis quand il parle. Frère, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Mais tu sais, jusqu'à ce que tu apprennes où se situe ton problème, tu seras dans le problème. Je dis, jusqu'à ce que tu apprennes où se situe ton problème, tu vas demeurer dans le problème. Cet homme a un moment, on a compris. Et Dieu l'a restauré. Il a commencé à sourire. Parce que qu'importe d'où tu es sorti, qu'importe ce qui s'est passé dans ta vie, le plus important, c'est ce que Dieu a la capacité de faire. Et ce matin, je vois Dieu changer la vie de plusieurs ici. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, je vois Dieu changer la destinée de quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Quel est ton problème? En général, quand les hommes ont des problèmes, ils ont deux attitudes majeures. Ou les hommes font face au problème en considérant deux choses. La première, c'est que les hommes font face au problème en considérant ce qu'ils voient. Et la deuxième chose, ils font face au problème en considérant ce qu'ils recherchent. Mettez les deux là ensemble et notez-les. Parce que je te dis, on va vers quelque chose d'important. Si tu comprends ce que je te dis, ces deux dimanches-là, Dieu t'a sauvé. La première chose, j'ai dit, les hommes font face au problème en considérant ce qu'ils voient. Il faut faire attention, ta vie va tourner en rond. Tu sais, ta vie va tourner en rond. Parce qu'il y a pasteur, puis il y a pasteur. Je vous dis, pourquoi certains gens s'en sortent? Pourquoi certains pasteurs, autrefois, Hachimolo expliquait son témoignage, lorsque le FBI est venu, à un moment donné, ils l'ont checké. Quand il a eu le problème avec l'État londonien et pendant les Jeux Olympiques, ils ont récupéré ses terrains pour lui donner. Mais il faut voir aujourd'hui ce que Dieu a fait pour cet homme. Mais pour qu'un homme arrive là, frère, c'est la réaction. Tu ne vas pas passer ta vie à dire c'est X, c'est Y, c'est Paul, c'est Pierre, c'est mon mari, c'est ma femme qui n'est pas une bonne femme. Non, il n'y a personne qui n'est pas bon. J'ai compris hein, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est né qui n'est pas bon. Tous les hommes sont aimables. Même le fou que vous voyez dans les rues là, sa maman l'a aimé. Et sa maman continue de l'aimer. Il faut t'affranchir. Sinon tu vas souffrir dans la vie. Hein? Et Dieu ne fera rien. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne fera rien. Il va te regarder. Et on ne peut pas blaguer Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter Dieu avec des offrandes. Qui t'a dit que tu peux acheter Dieu avec une offrande? Il est trop grand pour que tu dis, bon, je vais faire des offrandes dangereuses pour qu'il change d'avis. Dieu n'est pas dans ça. Il va prendre ton offrande et puis il va te changer toi. Tu t'amènes. Parce que dans tous les cas, tu dois comprendre que toute avancée dans la vie, c'est une bataille gagnée. Une bataille que tu ne gagnes pas, tu rétrogrades. Même si tu as l'impression que tu es devant, tu n'es pas devant. Je te dis ça aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un qui a changé de niveau, il a gagné des batailles. Tout est question de bataille. Nous sommes dans un monde où c'est une affaire de rapport de force. Satan vient contre nous avec une puissance. Nous venons contre lui avec une puissance. Celui qui passe gagne du terrain. Celui qui ne passe pas perd du terrain. Il n'y a pas d'état statique. Les années qui passent, soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas depuis 2 ans, je suis à la même position. C'est faux. Quand Gagi Selye chantait pour dire celui qui n'avance pas recule, là, c'est spirituel. Quand on n'avance pas, on ne reste pas stable, on recule. C'est pourquoi réussir ces difficultés n'est pas un choix. Tu dois réussir ta difficulté. Voilà pourquoi quand Dieu te donne des indications pour que tu saches comment faire pour réussir, il faut être assez humble pour comprendre. Quel est ton problème? C'est toi. Donc la première chose, les hommes font face au problème en tenant compte de 2 éléments. Ce qu'ils voient. Dans ce qu'ils voient, il y a leur perception. La perception. Est-ce qu'on peut dire avec moi la perception? Dis avec conviction, s'il te plaît. Tu n'as pas mangé le matin? La perception qu'ils ont de la vie. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'approche des hommes diffère en fonction de leur background, d'où ils viennent, et des courants de pensée majeurs qui dominent leur existence. Et ma prière, c'est que tu aies les bonnes pensées, les bonnes façons de voir la vie. Sinon, tu vas toujours faire face aux problèmes de la même façon. Donc, la perception ici, leur perception de la vie et leur capacité de discerner. Parce que la capacité de discernement d'un homme est liée à sa perception. On va revenir sur ça. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'ils cherchent? Leurs désirs, les valeurs qu'ils cultivent et les objectifs qu'ils veulent atteindre. Donc, c'est sur ces 2 éléments-là qui déterminent comment un homme fait face à une difficulté qui se présente devant lui. Il peut ne pas le dire, mais quand il y a une situation difficile, numéro 1, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit et ce qu'il recherche. Donc, perception, recherche, but, valeur. Lis-moi 2 Corinthiens 4, verset 8. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Lis-moi 2 Corinthiens 4, verset 8. Oui.
2 Corinthiens 4, verset 8. Mm-hmm. Nous sommes pressés de toute manière,
oui,
mais non réduits à l'extrémité.
Mm-hmm.
Dans la détresse, mais non dans le désespoir.
Mm-hmm.
Persécutés, mais non abandonnés.
Mm-hmm.
Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.
Je prie que tu comprennes ce verset. Il dit des choses profondes. Il dit que tout ce qu'il vit là, il vit ça. Certes, tu sais, la foi ne nie pas la réalité, mais n'en tient pas compte. C'est deux choses. Il dit, c'est vrai, mais ce que je perçois là, est plus fort que ce que je ressens. Romains 8, verset 18. Qu'est-ce qui est dit?
Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Amen. Donc, suivez-moi ici. J'ai parlé de quoi? Les gens s'appuient sur deux choses pour faire face à une difficulté. Ce qu'ils voient et ce qu'ils recherchent. Tu sais, face à une difficulté, tu peux voir et tu peux bien percevoir. Ça veut dire... Le fait d'avoir bien perçu le problème te donnera d'avoir une conscience aiguë et une compréhension claire que voilà le problème. Tu es dans le vrai et dans le droit. Dites amen. Parce que tu as bien vu. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche. Dieu dit, tu as très bien vu. Tu aurais pu mal voir. Donc, on peut mal voir. Mais quelqu'un qui perçoit bien a déjà une partie de la victoire. Mais ce n'est pas tout. Tu peux bien percevoir un problème. Mais si... La recherche que tu as ou le but que tu poursuis n'est pas de régler le problème. Tu auras une conscience aiguë de ce que, voilà mon problème, mais tu n'auras jamais la victoire sur ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui savent quel est leur problème. Mais en réalité, n'ont jamais été motivés de régler le problème. Et ça là, on est tous dedans. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen?
Amen?
Souvent, tu sais, Dieu te dit et il te donne une perception claire que c'est ça. Mais j'ai dit, il y a deux éléments, ce que tu perçois et ce que tu cherches. Mais souvent, c'est au niveau de chercher là. C'est-à-dire, la volonté n'y est pas. Donc, un homme peut avoir une conscience claire de son problème et être sûr que c'est son problème jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il parte en enfer. Donc, le fait de percevoir et de comprendre que mon problème, c'est à tel niveau, n'est pas suffisant. Il y a combien de gens? Tu vois, très souvent, tu vois, les chercheurs de femmes, là, ils savent. Ils te disent même que moi, là, il ne faut pas mettre femme autour de moi. Femme claire, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai trop de problèmes, les femmes claires. Lui, il a un problème de femme. Il est conscient, c'est clair, il sait. Le problème, là, l'envoie dans un trou. Mais jamais ce qu'il cherche là, c'est là où il y a le problème. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Quels sont les buts? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qu'il veut? Mais comme le vouloir ou la capacité n'accompagne pas son vouloir en sortir réellement, il reste dans la conscience du problème. Ah non, 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 je suis conscient. Donc, tu parles à l'utilité. Ah non, le gars, il est très conscient. Hein, pasteur, dis non, j'ai parlé avec lui, il est conscient vraiment de son problème, il sait... Non, le gars là, il va loin dans la vie. Il peut mourir comme ça. Il ne s'agit pas, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas d'être conscient. Hein? Il s'agit de travailler sur le deuxième volet là, pour que, bien qu'il y ait une perception claire et que tu as compris que c'est ça, que Dieu t'aide, que tu trouves la force pour régler le problème. Dans le deuxième cas, c'est quoi? Tu peux avoir la volonté, ce que tu cherches est clair, tu veux casser le problème, tu veux résoudre le problème. Mais dans ce deuxième cas-là, tu peux mal percevoir. C'est-à-dire que si tu as la bonne volonté de régler le problème et que tu ne vois pas le problème sous la bonne lumière et que ta perception n'est pas bonne, tu n'auras pas assez d'efficacité pour régler aussi ton problème. Donc, vous voyez que dans les deux cas, il est important que la perception et ce que tu recherches réellement là s'accordent. Sinon, dans le premier cas, tu vas dire, ah, je suis conscient que j'ai un problème, je suis conscient. Tu ne vas jamais résoudre. Dans le deuxième cas, tu es conscient que tu as un problème, mais en fait, tu as mal fait l'analyse. Tu vas mettre le doigt sur ce qu'il ne faut pas. Tu comprends? Dans le deuxième problème, tu vas voir mal. Donc, tu vas dire, c'est lui mon problème ou c'est ça le problème, alors que ce n'est pas ça. Mais tu veux vraiment résoudre. Donc, tu vas libérer beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'est pas. Donc, il n'y aura pas assez d'efficacité en termes de résultats. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont vraiment des chrétiens bien, qui font beaucoup d'efforts, qui jeûnent, qui font des choses, mais n'ont pas les résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme, je cherche le mot, quand Paul a dit à Timothée, combat le bon combat, ça veut dire qu'on peut être en train de combattre un mauvais combat. C'est-à-dire que tu es sincère dans ce que tu fais, tu jeûnes, tu pries, mais en fait, tu frappes la mauvaise cible. Et pendant que tu attends des résultats, il n'y a pas de résultats. Donc, bien voir et déterminer, les deux doivent aller ensemble. Tu peux être déterminé, si tu vois mal, tu n'auras pas d'efficacité. Tu peux bien voir, si tu n'es pas déterminé, tu n'arriveras jamais à la solution. Et le véritable problème de l'Église, c'est que la plupart des chrétiens sont là. Il y en a qui ne voient pas bien leur problème, ils ne savent pas c'est qui. Ou il y en a qui refusent de savoir quel est leur problème. C'est jamais eux qui ont, c'est pas lui. Il peut tout faire, il n'est pas là, tout le monde dans l'église, mais lui n'a jamais tort. Tout le monde a tort, sauf lui. Il dit, mon frère, il faut regarder. Il dit, non, c'est lui qui m'a parlé mal. Mais pour qu'il te parle mal, là, ça a commencé où? Il dit, non, on ne va pas là-bas, on reste sûr, il m'a parlé mal. Alléluia. Ou bien, il m'a torpillé. Parce que je vous dis, si vous comprenez ça, il aura la paix dans la maison de Dieu. Je vous assure, les conflits naissent de là. Le pasteur m'a parlé mal, le pasteur il est comme ça, le pasteur veut m'empêcher de réussir mon ministère, le pasteur est comme ça, ce pasteur là je ne l'aime pas, je préfère celui-là, c'est lié, c'est tout. Parce que les gens pensent naturellement que tu es leur problème. Personne n'est ton problème. Dis amen. Même si un garçon t'a trompé, ce n'est pas lui le problème, c'est toi le problème. Ça aussi c'est une vérité. Tu t'es arrangé comment et puis il te trompe. Parce que tu sais, c'est facile de dire, ce gars m'a trahi, mais pourquoi il t'a trahi? Tu as fait quoi pour qu'il te trahisse? Mon cœur me fait mal, il m'a trahi. Personne ne t'a dit de lui donner ton cœur. C'est tout. Donc à la base, ta douleur là, ce n'est pas lui. C'est toi qui as ouvert avec ta propre clé ton cœur. Non, parce que tu sais, tu ne seras jamais guéri si tu ne mets pas le doigt sur ton problème. Ton problème n'est pas... J'ai dit, ton problème, c'est toi. Moi, je bénis Dieu pour ceux qui s'en sortent, qui à un moment donné comprennent qu'ils doivent eux-mêmes travailler sur eux-mêmes. Et puis, à un moment donné, ils s'en sortent. Parce que tu sais, je veux te dire, la vraie liberté va venir quand tu vas comprendre que, mon frère, c'est ce que tu permets qui est permis. Ton cœur là, tu n'ouvres pas ça comme ça. Tu te blindes. Personne ne peut te blesser. À un moment donné, tu ouvres. Pourquoi Jésus dit, vous là, je vais vous envoyer, mais je vais vous envoyer au milieu de loups. Comment Dieu peut avoir pour objectif ou pour mission de nous envoyer au milieu des loups? C'est quel Dieu on sert? Il veut nous envoyer quelque part et il choisit là où il y a des loups, il y a des méchants. Il dit, c'est là-bas je vous envoie. Préparez-vous. Allez. Et toi, tu es surpris quand on te blesse. Tu es surpris quand tu es heurté. Tu es surpris quand les gens sont méchants. Où est la surprise? Tu ne connais pas Dieu, c'est tout.
Si tu connais Dieu, tu verras qu'il n'y a pas de surprise. C'est ce qui est normal. La normalité, c'est ça.
Frère, et tu vas faire quoi? Tu te blindes. Frère, je t'ai dit ici un jour, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Mais au moins, tu peux les empêcher de s'asseoir. Frère, tu auras toujours des gens qui ne sont pas bons. Le plus important, c'est qu'il faut veiller à ce qu'ils ne te gênent pas. Mais là, c'est ta responsabilité de fermer ton cœur et de veiller à ce que quelqu'un ne va pas entrer, sortir, se promener, jouer au football dessus. Ton cœur puis sort.
C'est tout. Si tu as compris ça, tu as gagné. Alléluia.
Personne ne dira demain, moi, faut danser, saute, cogne ta tête, je m'en fous. Moi, quand je me lève, je dors, j'ai envie de servir Dieu. Je m'inquiète rarement de ce qui est inutile. Donc, à un moment donné, les gens vont te trouver insensible. Ce n'est pas de l'insensibilité. Tu te protèges. Parce que le cœur que tu as là, ce n'est pas pour qu'on aille jouer au football dedans. C'est pour que tu puisses louer Dieu, pour que tu aies la paix et la tranquillité qui t'amène. Quelqu'un va te tuer pour rien et puis tu vas aller en enfer. Et lui va continuer à vivre sa vie tranquille ici à Abidjan. Dieu n'a jamais dit de se tuer pour quelqu'un. Il est déjà mort pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Protège-toi. Je demande aux sœurs, protégez-vous. Amen. Protège ton cœur. C'est toi ton problème. Tu es trop émotionnel. C'est ça ton problème? Tu dis, je me donne facilement aux gens. Donc quand on me fait des trucs, ça me blesse. Qui t'a dit de te donner? Ne te donne plus aux gens. Je me donne facilement. Qui t'a dit que quelqu'un est bon? Personne n'est bon. Tous les hommes sont mauvais. C'est Dieu seul. Les émotions là, Dieu n'a pas créé pour qu'on s'attache à quelqu'un. Attache-toi à Dieu. Laisse les gens tranquilles. Tu t'amènes. Tu t'attaches à Dieu, tu ne vas pas souffrir. Parce que lui ne te soit pas. Pasteur, je suis entier dans mes amitiés. Pasteur, je suis entier. Il faut être entier à Dieu. Hein, les hommes, il faut être à moitié. Une porte ouverte, une porte fermée. Alléluia. Dieu vous veut du bien, hein? Tu n'es pas fatigué de pleurer. Il y a des gens, des jeunes gens, ils sont défigurés. Il y en a même qui ont des masques, des femmes, jeunes femmes. Tu vois, elle a tellement réfléchi, elle pleure tellement, elle est ridée comme ça. Pourquoi? Pour qui? Chaque fois que tu les vois, j'ai des problèmes. Ma soeur, tu as quoi? J'ai des problèmes. Toujours, ils ont un problème. Faut te soigner, hein. Faut te soigner. Je t'ai dit, ton problème, c'est toi. Moi, j'ai pas de problème. À un moment donné, si tu comprends ce que je te dis là, tu vas être quelqu'un de libre. J'ai dit, dans la jungle, tu vas survivre. Tu sais, les survivants, ceux qu'on appelle les vainqueurs d'Apocalypse là, c'est pas n'importe qui, hein. C'est des durs. Frère, c'est des durs. Parce que nous sommes dans une jungle où tout va tenter à te blesser, à te malmener. Si tu n'es pas un dur, tu t'en sortiras pas. Tout. Les gens, ils ne s'entendent pas, ils n'arrivent pas à se dire bonjour, je ne sais pas. D'autres font ça là. Eux-mêmes, ils se giflent, mais puis ils sont ensemble. Ce n'est pas palabre là le problème qui vous a séparé, c'est vous le problème. Votre cœur dur. Sinon, il y en a même qui font coup de poing, tout ça. Et puis ils sont ensemble. Pour vous là, c'est. Ça ne va pas chez toi. Ah bon, tu me dis ça ne va pas. Demain, allons à la justice. C'est vous qui avez le problème. D'autres ont passé par là, ils sont encore dedans. Pour toi, là, tu es sorti. Qui a le problème? C'est toi. Il faut te guérir ce matin. Tu es un enfant de Dieu, il faut que tu travailles sur ta profondeur pour que Dieu te donne, on appelle ça insight. Les gens sont trop superficiels. Point rien, je veux sortir. Tu es sorti pour aller où? Tu es dedans, mon ami. Donc, votre perception du problème également. Ici, on est sur le premier point. Ce que tu vois, ta perception. Maintenant, regardez, la perception que tu as d'une situation qui se présente est également basée sur trois éléments. Point numéro un, c'est petit 1A. Tes expériences du passé peuvent influencer ta perception d'aujourd'hui. Si tu as eu du mal à régler un certain nombre de problèmes dans le passé, naturellement, si un problème se présente devant toi, c'est que tes expériences du passé influencent toujours la perception que tu as. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu changes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne changent pas beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit, à chaque étape de la vie, il faut se redimensionner. Parce que je vous assure, les choses, les années se suivent, ne se ressemblent pas. Regardez, il y a 6 mois, tu avais des amis qui ne sont plus tes amis aujourd'hui. Parce que Dieu, à chaque étape de ta vie, Dieu réorganise autour de toi ton atmosphère. Parce qu'un homme avance, un homme reçoit par l'atmosphère qui l'entoure. Et c'est pourquoi vous devez comprendre que même dans votre marche avec Dieu, à un moment donné de votre marche, il y a des gens qui ne peuvent plus rester autour de vous parce que leur présence dans l'environnement, dans l'atmosphère, ne favorise plus votre croissance ou votre avancée. Vous devez être prêt à changer les choses au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Sinon, le passé va vous rattraper. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit quoi? Il dit quoi? Il dit, si nous sommes en Christ, nous sommes quoi? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Toutes choses deviennent nouvelles. Oui, tu peux lire?
2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Il y a des gens qui ont du mal à laisser le passé. Tout ce qu'ils font, c'est la même façon de se comporter. Quand il était au CM2, quand il voit une femme, il fait comme ça. Aujourd'hui, il voit une femme, il fait comme ça. C'est, il y a longtemps. Cette phase-là, c'est pour les anciens gens. Ça ne peut plus attraper femme maintenant. Phase comme ça, là. Faut te remodeler. Faut, hein? Sinon, mon ami, tu ne changes pas tes façons de voir la vie. J'ai dit, tes expériences passées vont influencer ta perception et tes réactions présentes. Donc, les expériences passées sont importantes dans la perception. Expérience passée. Alléluia. Je t'en ai une histoire. Il y a un monsieur, un jour, qui était allé avec sa femme, c'était 2 touristes. Ils sont allés faire les trucs de montagne. Maintenant, celui qui les conduisait leur a dit, bon, on va aller à la montagne, mais il y a beaucoup de serpents. Mais ne vous inquiétez pas, tous les serpents qui sont ici, là, il n'y a pas un seul qui mord. Ils n'ont pas de venin. Ça, c'est la vérité. Et oui, c'était la vérité. Et ils sont allés faire la montagne. Et après, la femme s'est retournée. Elle est redescendue. Et elle voit son mari en haut de la montagne qui saute et qui se casse le pied. Elle vient dire, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il dit, non. Quoi? J'ai vu un serpent. Elle dit, mais le monsieur nous a dit que les serpents, là, il n'y a pas de problème, il ne mord pas et tout, il n'y a rien. Il dit, mon ami, moi j'ai vu un serpent, j'ai pris la fuite. Il dit, mais tu vois ton pied cassé. Il dit, Joe, je préfère que mon pied se casse. Que... Donc, en fait, la conclusion qu'on tire ici, c'est quoi? Le problème de cet homme, ce n'est pas le serpent. C'est la peur du serpent. C'est-à-dire, bien que sachant que les serpents là ne mordent pas, son expérience passée qui a créé la peur dans son cœur, est-ce qui a déterminé sa réaction? Donc vous voyez que son passé, ou l'image que le passé a imprimée dans son esprit là, c'est ce qui a fait qu'il a sauté, il s'est cassé le pied. Donc vous voyez que l'expérience passée est dangereuse. Et vous allez voir que certaines personnes ont subi des revers. Face à des difficultés, n'ont pas pu résoudre le problème comme il fallait. Et c'est resté. Et face à des problèmes présents, ils se comportent de la même façon. Donc, il faut que tu t'affranchisses de tes plaies passées. Dis ça à ton voisin. Sinon, tes plaies du passé vont saboter tes choix présents. Et tu ne pourras pas parce que tu vas réagir de la même façon. Tu vas réagir de la même façon. On te demande, non, tu dis non, j'ai été blessé dans le passé, c'est pourquoi j'ai réagi comme ça. Quand quelqu'un m'approche, je fais comme ça parce qu'on m'a poussé autrefois. Mais lui n'est pas venu te pousser, mon ami. Pourquoi tu le pousses? Dis non, j'anticipe maintenant. Donc, vous voyez, il y a des sœurs, c'est leur première expérience avec le premier homme qu'elles ont eu dans leur vie, là, qui font qu'elles sont comme ça. Hein. Amère va les tuer. Elle parle mal. Mais en fait, c'est lié au fait qu'elle avait quelqu'un, qui, le gars là, il parlait mal. Et puis, eux deux se parlent mal. Donc, c'est resté. Donc, toi qui es venu là, mon frère, il faut attacher ta ceinture. Elle te parle mal. Tu dis bonjour, tu vas pas bien, tu es fou ou bien quoi. Mais qu'est-ce que tu as? Elle dit non, que Dieu sauve ma bouche. Mais en fait, le passé. Il faut redimensionner les choses au fur et à mesure que tu avances. Dis amen. C'est pas facile, mais c'est un truc qu'il faut comprendre. Et il faut s'exercer à le faire. Deuxième, en petit b, du 1, c'est quoi? C'est que, j'ai parlé de votre expérience en deuxième point, ton environnement présent peut influencer également ta perception des choses. Et tu sais, le conseil que je veux te donner ici, c'est que ne laisse pas ton environnement déterminer ton futur. Tu sais, l'environnement est important et l'environnement influence. Il y a des gens, ils ont fini par devenir le produit de leur environnement. Ma prière, c'est que tu ne sois pas le produit de ton environnement, mais que tu sois le produit de Dieu et de sa parole. Parce que dans cette affaire-là, ce n'est pas ton environnement le problème. Hein. Dans l'affaire, c'est que c'est Dieu, sa parole. Parce que pour être un vainqueur, là, mon ami, si la parole de Dieu ne t'a pas rempli, tu ne t'en sortiras pas. Parce que les gens épousent facilement les idées de l'environnement. Quelqu'un qui a grandi à Paris, c'est comme avant de venir, j'ai discuté avec une jeune dame qui veut se marier avec un frère. Ils sont venus me voir. Et le frère me dit, non, la fille là, elle n'est pas comme les filles en Afrique. J'ai dit, ah bon? Elle parle. Donc je voulais l'écouter. Mais quand la fille est entrée, j'ai vu vraiment qu'elle n'était pas comme les filles en Afrique. Parce que l'environnement l'a tellement formaté. Mais elle parle, elle respecte même pas le type. Elle dit deux mots. Elle, tu ne fais pas la porte, toi? C'est comme ça. Pourtant, elle est chrétienne, née de nouveau. Elle chante dans chorale, tout ça, mais ça n'a pas empêché. L'environnement est tel que l'environnement l'a formaté. Et souvent, l'environnement peut t'empêcher de faire face ou d'apprécier avec exactitude une situation. Pourquoi? Oh, c'est comme ça tout le monde pense ici. Donc nous tous on pense comme ça. C'est comme ça on se comporte ici. Donc tout le monde se comporte comme ça. Et très souvent les gens épousent l'idée qui est dans l'environnement. Et ils s'adaptent à ça. Et en fonction de ça, ils font leurs interprétations de la vie. Non! Nous sommes des enfants de Dieu. Quel que soit ce que l'environnement dit, nous devons rester fermes sur la parole de Dieu. On ne dit pas oui, c'est vrai la Bible dit, mais ici on est en Occident. On est en Occident, on s'en fout. C'est la même Bible qui va juger les gens en Occident, qui va juger les gens ici à Abidjan. Donc, la parole de Dieu n'est pas négociable. Ou bien ma mère, j'ai toujours vu ma mère faire comme ça, on m'a élevé comme ça, moi c'est comme ça, je suis chez nous, c'est comme ça on parle. Comment chez toi c'est comme ça vous parlez? Vous ne pouvez pas parler chez vous comme ça. Est-ce que c'est ce que la Bible autorise? Sinon, arrête! Et un troisième élément ici, c'est ton évaluation personnelle. En général, les personnes ayant une bonne perception d'eux-mêmes prennent plus de risques. Tu vas voir que quelqu'un, écoutez-moi bien, je suis en train de vous parler de la façon dont tu vois le problème. Ton passé, ton présent et ton évaluation personnelle de toi. Très souvent, vous allez voir que la réaction qu'un homme a face à un problème a une dose de le niveau de confiance qu'il a en lui. S'il ne se fait pas confiance, il a une réaction. S'il se fait confiance, il a une autre réaction. Donc, l'évaluation qu'un homme fait de lui-même est déterminante dans l'approche qu'il a face au problème qui se présente à lui. Qui comprend? C'est pourquoi Dieu veut que tu comprennes et que tu saches qui tu es. Non, parce que je te dis la vérité. Quand tu ne fais pas confiance là, il y a des choses que tu ne fais pas. Ou ça va biaiser même ta réaction. On va terminer, on va continuer après. Je vais vous expliquer d'autres points et puis dimanche prochain, je vais vous montrer comment, pratiquement, quand vous êtes face à une difficulté, comment il faut régler le problème. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun problème qui est un problème. Moi, je l'ai compris. Aucun problème n'est un problème. Tout dépend de la capacité de réaction, de la perception et de ce que nous recherchons dans la vie. Parce que sinon, si un problème était un problème, personne ne passait. Si tu ne t'en sors pas, il faut t'en prendre à toi-même. Il faut arrêter de regarder autour de toi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il y a ça? Bon, les gens vont te dire quoi? Pasteur, et les ancêtres, les pauvres ancêtres qui sont morts, qui sont pourris, vous ne les laissez pas tranquilles. Pasteur, et les ancêtres, certes, c'est un volet important à considérer. Mais ce n'est pas le volet essentiel. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Et si son sang n'a pas été capable de t'affranchir, mon ami, ramasse tes affaires et va au village. On peut faire une délivrance une fois, on ne fait pas toute la vie une délivrance. Chaque semaine, on ne fait pas de délivrance pour dire, j'ai mes grand-mères qui m'attaquent la nuit. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de ça leur fonds de commerce pour maintenir les chrétiens dans la servitude. À chaque fois, ça ne va pas, on va voir. Je vois au village, la case droite, je vois comme un truc, un masque, et des œufs qui tombent comme ça. Mon ami, c'est chaud. Et puis, il dit, qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Bon, viens, on va voir ça. Et puis, au moment de l'onction, puis va verser. Va. Sur lui, et puis dit, va. Ta foi t'a sauvé. Et puis, va. Il dit, ah, là, je me sens bien. Dieu a fait le miracle. Non, frère, tout ça, c'est du cinéma. Quand ça ne va pas, on dit, c'est la grand-mère. Ce n'est pas la grand-mère. Je dis, si les sorciers étaient forts, les premières personnes qu'ils allaient arrêter, ce n'est pas toi, c'est nous. Mais ils ne sont pas aussi forts que tu le crois. Mais Satan est fort de ton ignorance. Donc, plus ignorant tu es, plus fort il est. C'est une question de proportionnalité. C'est quand on parle de proportionnalité, ça veut dire que les deux choses-là ne grandissent pas en même temps. Si un baisse, un grandit. Si un grandit, un baisse. De toute façon, Satan est fort dans ta vie là. C'est parce que tu es ignorant. Quand ton niveau de connaissance va grandir, il sera faible. J'ai prêché un message il y a longtemps. Notre force, la faiblesse de nos adversaires. Tu comprends ça? Ta force est la faiblesse de ton adversaire. Plus de force tu as, plus de faiblesse il a. L'Église doit se réveiller et sortir de tout ce qui est folklorique. Bien que nous croyons à la délivrance. Ouh, je crois à la délivrance. Je chasse les démons matin, midi, soir. Et j'aime bien chasser et puis crie. Ça, ne t'inquiète même pas pour ça. Mes frères, on ne reste pas dedans toute la vie. Les nouvelles personnes, on peut les chasser les démons. Mais à un moment donné, la délivrance et la vraie délivrance vient quand Dieu te vide et puis te remplit d'autres choses. Il te vide, il te remplit d'autres choses. Oui! Et ça peut mettre toute une année, toute une vie. Mais chaque choix que tu fais dans la vie te qualifie un peu plus. Quand il est le bon choix, Dieu enlève, il met autre chose. Quand il est le bon choix, Dieu enlève, il met autre chose. C'est quoi vous allez voir? Des hommes de Dieu, un mauvais caractère. Il est homme de Dieu, mais mauvais caractère. Même païen n'a pas caractère comme ça. Parce que ce n'est pas une affaire d'onction. C'est une affaire de faire des choix et de décider. Les gens pensent que quand on met l'onction sur ta tête, tu deviens un ange. L'onction, c'est pour le service. Mais en termes de caractère, en termes de cœur, un cœur comme celui de Jésus, là, c'est un travail. Pourquoi il dit travailler à votre salut? Chacun doit travailler pour que quand on te rencontre, on ait l'impression qu'on a rencontré Jésus. Il y a des gens ici dans cette salle-là. Je veux bénir Dieu pour votre vie. À chaque fois que ma tête vient sur vous, je bénis Dieu. Parce que vous êtes des hommes bien, calmes, tranquilles, réfléchis dans votre raisonnement. Vous ne fatiguez personne. Mais il y a d'autres, quand tu penses à eux, tu pries Dieu. Quand ton portable sonne, est-ce que ce n'est pas pour dire là, le gars a fait une gaffe? Parce qu'ils sont prompts aux palabres et aux discussions. Prompts à dire c'est X, c'est pas Y. Prompts à sauter. Prompts à dire c'est moi, tout le monde m'attaque. Prompts à se sentir victime de tout. Frère, tu es un enfant et tu n'es pas encore grand. Et Dieu t'apporte cette parole-là ce matin pour que tu guérisses et tu grandisses, que tu avances. Parce que si tu ne réussis pas tes difficultés, frère, je suis désolé pour toi, mais il y a des choses qui n'arriveront pas. Terminons. Depuis là, je parle de ce que tu vois. Maintenant, ce que tu poursuis. Je dis un seul mot et puis j'arrête. Ton problème n'est pas ton problème. Ce que tu poursuis, c'est ce que tu as comme objectif. Là où il n'y a pas d'objectif, on a les yeux fixés sur les problèmes. Là où il y a des objectifs, on a les yeux fixés sur les objectifs. Les gens qui n'ont pas d'objectifs ou qui ont des objectifs ne laissent jamais les problèmes détourner leurs yeux du but. Les problèmes et les objectifs sont également proportionnels. Plus d'objectifs tu as, plus focus tu es, moins tes yeux sont sur tes problèmes. Donc vous allez voir que quelqu'un échoue face à des difficultés quand il n'a pas d'objectif. Un homme qui est vraiment concentré, il n'y a pas un problème qui peut l'effrayer. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Tu peux t'en sortir. Si tu fais la bonne analyse et que tu comprends ce matin que ton problème, en réalité, n'est pas ton problème. Libère les gens. Libère ta grand-mère. Libère les voisins. Libère les frères à l'église. Libère la pauvre sœur que tu n'aimes pas. Parce que tu penses qu'elle te stresse. Et puis, guéris ton cœur. C'est ton cœur le problème. Libère les gens. Libère les gens. Libère les gens. Tu penses que quelqu'un a été à la base de ton malheur? Libère-le, ce n'est pas lui. C'est cette tendance à avoir un cœur trop fragile qui te crée des problèmes. C'est cette tendance à ouvrir ton cœur comme un WC public. Tout le monde entre là-bas là qui te fatigue. Que ton cœur ne soit plus un cœur qu'on ouvre trop facilement. C'est ce que Dieu veut t'enseigner. C'est pourquoi il a envoyé le gars là te blesser mal. Pourquoi après lui là, personne ne puisse entrer et te blesser n'importe comment. Donc comprends et cherche à être guéri. Tu vas voir que à l'église, quand on te demande, mon frère, ça va? Tu vas dire, oh, tout va bien, il y a la paix dans l'église, il y a l'amour. Tu dis, ah bon, tout va bien? Tu dis, oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qu'un homme peut faire qui va te... Il a fait tout le regard depuis que tu continues ta route. Il est content avec toi, tu es content avec lui, il te salue, tu le salues. J'ai dit, vous êtes ici, là, vous êtes tous des frères, il n'y a pas privilégié ici. Quelqu'un te parle mal, regarde-le, puis tu lui parles mal aussi, et puis tu dis, Jésus-Christ est Seigneur. C'est tout. Et c'est imparable. Vous êtes tous des frères. Je suis votre pasteur. Ton frère te parle mal, tu viens, tu dis, pasteur, vraiment, le gars m'a parlé mal, moi tout ça là-même, je vais laisser l'église. Parle-lui mal, parlez-vous mal, et puis après, et la vie continue. Non, parce que je veux comprendre la logique des gens. Attends, Monsieur Yapo et Monsieur Atse ont eu des différends. Ils n'ont pas de différends, c'est un exemple. Et puis, Atse s'est mal comporté à Monsieur Yapo. Et puis pour ça, Monsieur Yapo va m'en vouloir. Moi, j'ai quoi voir? Il te parle mal, tu lui parles mal. Et puis, vous dites, il te dit, je vais chez le bishop. Tu dis, moi aussi, je vais chez le bishop. Quand tu vas dans une maison et tu vois deux frères lutter, lutter un cadeau dehors. Tu vois, le plus grand, il veut prendre, le plus petit dit, tu ne prends pas. Et puis ça crie là. C'est parce que deux, ils savent que le monsieur qui est dans la chambre là, c'est leur papa. Mais tu vas voir que le fils adopté là, ou bien l'enfant de la voisine qui est venu visiter là, lui, quand on crie, laisse le père. Il n'est pas chez lui. Parce que les deux luttent jusqu'à ce que le papa sorte et que le papa dise, s'il ne m'a pas mis au monde aussi, on va voir. Frère, vous tous qui êtes ici là, je suis votre pasteur. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus mon fils que toi. Maintenant, si tu te sens moins fils, tu es suspect. Tu es suspect. Non, mais tu es suspect. Parce qu'un vrai fils, là, il négocie pas dans sa maison. C'est sa maison. Tu me fais quelque chose, je suis dans ma maison. Comme toi. Et je te dis. Mais on ne se comporte pas comme ça pour dire, bon, dans tous les cas, s'ils veulent prendre, ils n'ont qu'à prendre. Moi, ce n'est pas mon problème. Je vais rester dans mon coin. Pourquoi eux n'ont qu'à prendre? Pourquoi eux n'ont qu'à prendre et puis toi, tu ne prends pas? Comment tu te considères dans la maison? Étranger? Tu es fils de la maison. Je dis, n'aie pas peur de quelqu'un. Qui qu'il soit. Je dis bien, je parle ici là. Qui qu'il soit. Respectez-vous les uns les autres. C'est très important. Mais si quelqu'un se trompe à ne pas te respecter, il faut l'ignorer. S'il continue, il faut l'ignorer. S'il continue encore, tu dis, mon ami, qu'est-ce que tu as? Il y a quoi? Il n'y a pas par là, ben, on est tous fils de la même maison. De toute façon, tu m'as tapé, je te tape aussi. Puis on va chez le père, nous deux. On finit de régler, on vient, on continue notre vie quotidienne. On ne fait pas par là dans la maison du Seigneur. C'est enfantin de faire par là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? On a terminé ce matin. Règle ton problème! Ne rate pas dimanche prochain. Dimanche prochain, je vais te donner les points après points. Calcul. Comment il faut que tu t'en sortes dans la vie? Parce que beaucoup de gens ont besoin d'être des vainqueurs. Beaucoup de gens s'écroulent sur le poids des difficultés, des soucis de la vie. Ils ont l'impression qu'ils sont dans une prison. Ils ne s'en sortent pas. Frère, tu peux t'en sortir. Je suis venu te dire ce matin, c'est possible. Dieu a fait en sorte que personne, il dit, même la tentation qui vient devant toi ne sera pas au-dessus de tes forces. Si tu ne t'en sors pas, ce sera ta faute. Je dis, je répète, si tu ne t'en sors pas, ça sera ta faute. Lève la main droite, dis, si je ne m'en sors pas, ça sera ma faute. Ça veut dire, tu dois tout faire pour t'en sortir. Moi, j'ai décidé que cette église va s'en sortir. Lorsqu'on a eu des difficultés, j'ai dit à mes collaborateurs, ne craignez rien. Restez tranquille. Quand on a eu des montagnes, je leur ai dit, les gars, il dit, pasteur, tu es sûr? Regarde la montagne. J'ai dit, les gars, regardez le Dieu de la montagne. Il est plus grand que la montagne. Frère, il n'y a aucun problème qui est un problème. Si tu comprends ça, ta vie va être simple. On t'a bloqué, ok. Ils ont bloqué ton compte, ok. Ton business est en train d'aller dans un sens que tu n'aimes pas, ok. Assois-toi simplement. Revois tes stratégies. Et refonce. Tu trouveras le chemin. J'ai dit, tu trouveras le chemin. Ceux qui abandonnent n'arrivent pas. Mais ceux qui arrivent n'abandonnent jamais.